Chapitre 29. La perte d'une colline.
Concentrez-vous sur les blafards,
dit Egwen, en propulsant un mur d'air sur les trollocs qui gravissaient le versant de la colline. Les monstres avaient percé une brèche dans les rangs des piquiers qui défendaient la butte, et ils se déversaient par cette ouverture. Désormais habitués à affronter le pouvoir, ils avançaient la tête rentrée dans les épaules. Non sans effort, Egwen avait fini par repérer le myrdral caché au centre de cette marée inhumaine. Sur sa tenue noire, il portait un manteau marron et brandissait une lance accrochée.
Pas étonnant que j'ai eu du mal à le localiser.
Avec un tissage de feu, Egwen carbonisa la créature, qui flamba en hurlant et en se débattant, son visage sans yeux tourné vers le ciel. Les trollocs qu'elle dirigeait s'écroulèrent tous. Egwen en sourit de satisfaction, mais son plaisir ne dura pas. Les archers étaient à court de munitions, les piquiers n'en pouvaient plus, et plusieurs Aes Sedai semblaient au bout du rouleau. Une nouvelle vague de trollocs remplaça celle que la chair d'Amyrlin avait neutralisée.
« À ce rythme-là, tiendrons-nous un jour de plus ?»
se demanda la jeune dirigeante. Un escadron de lanciers se détacha soudain du flanc gauche de l'armée de Brain qui se battait devant le fleuve. Voyant l'étendard orné de la flamme de Tarvalon, Egwen supposa qu'il s'agissait de l'unité montée dont le général était si fier. Avec le défunt capitaine Jory Chagrin, il avait réuni ses hommes en sélectionnant les vétérans les plus doués de toutes les nations. Sans oublier les membres de la garde de la tour désireux d'intégrer cette élite combattante. Esquivant les chariens qui leur faisaient face, ses cavaliers fondirent vers la colline d'Egwen, visant les lignes arrière de l'armée de monstres qui l'attaquaient. Derrière ces héros, un autre escadron suivit les traces du premier. Des Ilianiens, cette fois, groupés sous l'étendard vert de leur pays. À l'évidence, Brain avait décidé d'aider la chair d'Amyrlin à supporter la pression. Mais, minute. De sa position élevée, Egwen vit au premier coup d'œil que le flanc gauche de l'armée principale était totalement dégarni, privé de protection.
Que fait donc Brain? Il tend un piège aux chariens?
Si c'était le cas, les mâchoires de ce piège ne se refermèrent jamais. Au contraire, un escadron de cavaliers chariens fonça sur le flanc exposé de Brain et commença à massacrer les fantassins qui défendaient la position. Soudain, Egwen remarqua un mouvement sur le champ de bataille qui la terrifia encore plus. Se détachant du flanc droit adverse, une unité de cavalerie charienne encore plus puissante fondait sur les lanciers qui accouraient au secours de la chair d'Amyrlin.
Gawain, fais prévenir ces lanciers, c'est un piège!
Mais il était bien trop tard. En un éclair, les chariens eurent fondu sur l'arrière des lanciers montés de la tour blanche, et le massacre commença. En même temps, les derniers rangs de trollocs se retournèrent pour bloquer la charge de ces mêmes lanciers. Armés de longues lances, les monstres déchiquetèrent les chairs des chevaux et de leurs cavaliers. Dans les premières rangées de lanciers, il n'y eut pas un survivant. Grisés par ce succès, les trollocs avancèrent au milieu des cadavres et s'attaquèrent aux rangées suivantes. Egwen cria, puisa autant de pouvoir qu'elle pouvait en absorber, et tenta de détruire ces monstres. Les autres sœurs l'imitant, la bataille tourna à la boucherie. Mais les trollocs étaient trop nombreux, et les lanciers auraient eu besoin d'une protection d'infanterie. En quelques minutes, tout fut terminé. De la fière unité, il ne restait que quelques hommes qui galopaient à bride abattue vers le fleuve. Ce spectacle troubla Egwen. Parfois, une armée semblait se déplacer au rythme indolent d'un énorme navire qui accoste. L'instant d'après, tout s'accélérait et des compagnies entières mouraient en un clin d'œil. La jeune dirigeante balaya du regard le champ de cadavres. Avec ce drame, la position en hauteur des Aes Sedai était compromise. Alors que les trollocs se concentraient de nouveau sur les sœurs, Egwen ordonna qu'on ouvre des portails. Pendant que les archers continuaient à cribler les monstres de flèches, les piquiers battirent en retraite via un certain nombre de ces passages. Quand ils furent tous partis, Egwen et ses Aes Sedai martelèrent de coups les trollocs, jusqu'à ce que les archers s'en soient allés à leur tour. Avant de disparaître aussi par le dernier portail ouvert sur sa colline, Egwen jeta un ultime coup d'œil au champ de bataille. Que venait-il donc de se passer? Alors que Gawain se campait à ses côtés, toujours fidèle au poste, la jeune dirigeante secoua la tête. Son mari n'avait même pas eu l'occasion de dégainer sa lame. Même chose pour Laelwyn. Ces deux-là se livraient une petite guerre dans la guerre, histoire de savoir lequel faisait le meilleur garde du corps. Au début, Egwene trouvait ça agaçant. Tout bien pesé, ça valait mieux que la frustration morose de Gawain, lors des engagements précédents. Cela dit, le jeune homme était très pâle. Le début d'une maladie? Un effet du manque de sommeil chronique?
Je veux aller dans notre camp pour parler au général Brine,
annonça Egwene.
Nous devons savoir comment une chose pareille a pu se produire. Après, j'irai rejoindre les troupes qui défendent le gué, et je vengerai les braves qui sont tombés aujourd'hui.
Gawain et Leilouin froncèrent les sourcils.
Egwene,
commença le jeune homme.
Il me reste des forces. Pour ne pas m'épuiser, j'ai eu recours au sang gréal. Les hommes qui se battent là-bas ont besoin de me voir, et je dois être à l'endroit où je peux aider. Si ça te rassure, j'emmènerai autant de gardes que tu voudras.
Gawain hésita, jeta un coup d'œil à Leilouin, puis finit par hocher la tête. L'âne mit pied à terre et tendit ses rênes à Andéré. Ensuite, il fendit une haie de gardes qui semblèrent troublés de le voir, surtout avec son escorte, dont la plupart des membres étaient couverts de sang. Le pavillon n'était guère plus qu'un auvent désormais, et des soldats y entraient ou en sortaient comme s'il s'agissait d'un moulin. Au Chiennard, il faisait très chaud en ce jour. Même si l'âne n'avait reçu aucun rapport des autres fronts, leur situation, d'après ce qu'il avait entendu, n'était pas plus reluisante que la sienne. Elaine se battait à Caerienne et Egwene à la frontière de l'Arafel. Si la lumière le voulait bien, les deux femmes, au final, s'en sortiraient mieux que l'âne. Sous le pavillon, des cartes étalées autour de lui, Agelmar poussait des pierres colorées avec une longue et fine baguette. En même temps, il donnait des ordres. Régulièrement, des messagers l'informaient de l'évolution des combats. Les meilleurs plans, disait-on, ne valaient plus rien après qu'on eût dégainé la première épée. Mais un bon général était capable de modeler une bataille à la manière d'un potier qui travaille la glaise. Le génie, c'était de capter tous les mouvements des armées et de les influencer.
« Seigneur Mandragoran, »
fit Agelmar en levant les yeux.
« Mon ami, tu as l'air aussi en forme que la flétrissure. Es-tu allé voir les Aes Sedai pour une guérison ?»«
Non, je vais bien. Comment se passe la bataille ?»«
C'est encourageant. Si nous trouvons un moyen de bloquer les seigneurs de la terreur pendant une heure ou deux, nous aurons une bonne chance de repousser ces trolloques. »
Impossible, lâcha l'âne. Ils sont trop nombreux.
Ce n'est pas une question de nombre.
Agelmar fit signe à l'âne d'approcher, puis il désigna une carte.
L'âne, il y a une chose que peu d'hommes comprennent. Une armée est susceptible de perdre même quand elle bénéficie de l'avantage du nombre et de la position. Bref, quand elle a d'énormes chances de gagner. Lorsqu'on commande depuis longtemps, on considère une armée comme une entité, une énorme bête aux milliers de pattes, si tu préfères. C'est une erreur. Une armée est composée d'hommes, de trolloques dans le cas qui nous occupe, qui évoluent sur le champ de bataille, la peur au ventre. Être un soldat, c'est apprendre à contrôler sa terreur. L'animal, en nous, désire seulement s'enfuir.
L'âne s'accroupit et étudia les cartes d'état-major. La situation était telle qu'il l'avait reconstituée, sinon que la cavalerie légère du Saldaïa protégeait toujours le flanc est du front. Une erreur de marquage? De ses yeux, l'âne avait vu que ses cavaliers n'étaient plus là. Les messagers n'auraient-ils pas dû prévenir Agelmar que ses cartes étaient fausses? Ou faisait-il en sorte qu'ils ne s'en aperçoivent pas?
Aujourd'hui, l'âne, je vais te montrer quelque chose,
dit Agelmar.
Tu vas découvrir ce que l'homme le plus insignifiant doit apprendre à l'entraînement, s'il veut avoir une chance de survivre. Si tu les persuades qu'elles vont mourir, tu peux faire fuir les plus terribles hordes. Frappe assez fort, et un adversaire se repliera. De peur d'être touché de nouveau, il ne reviendra pas, même si tu n'es plus assez en forme pour lever ton arme.
C'est ton plan ? Demanda l'âne. Aujourd'hui ?
Face à une démonstration de force terrifiante, les trolloques fuiront à toutes jambes. Je sais que ça peut fonctionner. J'espère que nous pourrons abattre le chef des seigneurs de la terreur. Si les trolloques se croient battus, ils s'enfuiront. Ce sont des bêtes sans courage.
Le discours d'Agelmar tenait la route. L'âne manquait-il d'une vue d'ensemble des choses? Au fond, le génie d'un des grands capitaines le dépassait peut-être. Avait-il eu raison d'annuler l'ordre de déplacer les archers? Le messager que Lan avait envoyé en mission un peu plus tôt revint au camp, au galop. Un des hauts gardes l'accompagnait toujours, une flèche noire plantée dans un bras.
« Une formidable horde de monstres arrive de l'Est »
cria-t-il.
« Daishan, tu avais raison !»
Il savait de quelle direction venir, pensa Lan. Ils ne peuvent pas avoir seulement remarqué que nous nous sommes exposés, pas avec les collines qui leur bloquent la vue. Tout se passe trop vite. Les ténèbres ont dû être prévenues, ou elles savaient d'avance ce qui se passerait. Lan regarda Agelmar.
« C'est impossible !»
s'écria le seigneur.
« Pourquoi les éclaireurs n'ont-ils pas vu cette force ?»«
Seigneur Agelmar, »
dit un des officiers,
« les éclaireurs qui étaient à l'est, tu les as envoyés surveiller le fleuve, tu t'en souviens ? Ils devaient inspecter le gué, et les archers, as-tu dit ?»
L'homme blêmit.
« Les archers !
Ils sont toujours en position !»
annonça Lan en se redressant.
« Je veux que les premières lignes commencent à se retirer. Les forces du Saldaea, qu'on les sorte du combat !» afin qu'elles soutiennent la retraite des fantassins. Sonnez le rappel des Achamans. Nous allons avoir besoin de portails.
« Seigneur Mondragoran, »
dit Agelmar,
« ces nouveaux rebondissements peuvent être exploités à notre avantage. Si nous nous divisons et prenons l'ennemi en tenaille, nous pourrons... »«
Seigneur Agelmar, je te relève de ton commandement !»
fit Lan sans regarder le général.
« Hélas, je dois te faire placer sous bonne garde, jusqu'à ce que je comprenne ce qui s'est passé. »
Dans un silence de mort, tous les regards se tournèrent vers Lan.
« On dirait que tu me mets aux arrêts, »
grogna Agelmar.
« C'est exactement ça, »
confirma Lan en faisant signe aux gardes qui attendaient dehors. Une dizaine d'hommes entrèrent, formant un cercle pour empêcher quiconque de sortir. Certains hommes d'Agelmar portèrent la main à leur épée, une minorité, les autres semblant sonner.
« C'est un outrage !»
cria Agelmar.
« Lan, ne sois pas idiot. Ce n'est pas le moment de... »«
Que veux-tu que je fasse, Agelmar ? Te laisser conduire l'armée à sa perte ? Nous livrer aux ténébreux ? Pourquoi as-tu agi ainsi ? Pourquoi ?»«
Tu surréagis, Lan, »
dit le seigneur, gardant son calme au prix d'un gros effort.
« Que te passe-t-il par la tête ?
Pourquoi as-tu retiré les archers des collines de l'Est ?
Parce que j'en avais besoin ailleurs.
Et tu crois que ça a un sens ? Ne m'as-tu pas dit toi-même que protéger ce flanc était vital ?
Je...
Tu as aussi retiré les éclaireurs de cette position. Pourquoi ?
Il... C'est...
Agelmar porta une main à sa tête, comme s'il avait le tournis. Puis il baissa les yeux sur ses cartes et les écarquilla.
« Qu'est-ce qui cloche avec toi, Agelmar ? »
demanda Lan.
« Je n'en sais rien. »
Clignant des yeux, le général étudia de nouveau les cartes. Puis il se décomposa.
Par la lumière, qu'ai-je fait ?
Transmets mes ordres,
dit Lan à un de ses gardes.
Qu'on fasse venir ici le seigneur Baldéré. La reine Éteniel et le roi Éassar aussi.
Lan, tu dois...
Agelmar s'arrêta net.
Je ne peux pas le dire. Je pense à ce qu'il faut faire, et les idées les plus idiotes me viennent à l'esprit. Je continue à essayer de nous trahir, et je nous ai condamnés.
Agelmar dégaina son épée courte. Lan bloqua l'arme au niveau de la garde, juste avant qu'il s'enfonce la lame dans le torse. Du sang jaillit de ses doigts, car il avait quand même touché le tranchant.
« Laisse-moi mourir avec honneur !»
dit Agelmar.
« Je nous ai détruits ! Lan, cette guerre est perdue par ma faute !»«
Une bataille, oui, mais pas la guerre. Chez toi, quelque chose ne va pas. Tu es malade ou fatigué. Ou victime du ténébreux. Je crains que quelqu'un ait joué avec ton esprit.
Mais...
Tu es un soldat !
Cria Lan.
Agis en tant que tel !
Agelmar se pétrifia. Puis il chercha le regard de Lan et hocha la tête. Le roi du Malkaire lâcha l'épée, et Agelmar la remit au fourreau. Puis il s'assit en tailleur et ferma les yeux, la position de méditation rituelle du chiennard. Lan sortit et distribua les ordres.
« Que se passe-t-il, Lan ?»
demanda le prince Kaizel.
Une coercition, sans doute. Nous étions comme un lapin dans un collet qui se referme lentement, mais inexorablement autour de son cou. Que quelqu'un me confirme que les Achamans sont encore en mesure d'ouvrir des portails. Et qu'on aille voir ce qui se passe sur notre flanc est. Les archers vont avoir besoin de soutien. Qu'on leur envoie toutes les réserves.
Kaisol recula, les yeux ronds et la main sur la poignée de son épée. Puis il regarda le seigneur Agelmar.
Nous avons perdu, c'est vrai ?
Demanda-t-il, tandis que des messagers partaient transmettre les ordres que Lan venait de finir de donner.
Oui, mon ami.
Lan !
S'écria Agelmar en ouvrant les yeux. Le roi du Malkier se tourna vers le général déchu.
La reine Tenobia ! Je l'ai envoyée à l'abattoir, sans savoir ce que je faisais. Ceux qui ont implanté ces idées dans ma tête veulent sa mort.
Lan jura entre ses dents, sortit au pas de course du camp et fila vers le versant de la colline la plus proche. Les éclaireurs s'écartant, il atteignit sans peine le sommet et tira sa longue vue de sa ceinture. Il n'en eut même pas besoin, trouvant l'étendard de la reine à l'œil nu. Tenobia était encerclée. Les renforts qu'elle espérait n'étant pas venus, elle allait... Lan voulut lancer un ordre, mais c'était trop tard, car des trollocs déferlèrent sur le petit drapeau blanc et argent que la reine défendait. Quelques secondes plus tard, il ne resta plus un soldat vivant dans ce secteur. Les sangs glacés, Lan comprit qu'il ne pouvait plus rien pour Tenobia. Mais on n'en était plus à se soucier des individus. L'enjeu, c'était de sortir de ce piège avec encore un semblant d'armée à commander. Matt chevauchait vers le sud avec Tuon, longeant la berge du fleuve qui matérialisait la frontière occidentale de l'Arafel. Bien entendu, là où Al et Tuon, on trouvait aussi Seleucia. Et désormais Min, car Tuon entendait garder sa nouvelle voyante mort près d'elle en permanence. Elle était perpétuellement en quête d'augure, et Min, à contre-cœur, interprétait ce qu'elle voyait. Matt avait tout fait pour qu'elle prétende avoir vu un chapeau tournant autour de sa tête. Ainsi, Tuon cesserait de vouloir le priver du galurin qu'il aimait tant. C'était toujours mieux que de parler de l'œil sur une balance ou de la sinistre dague, et des autres horreurs que la jeune femme avait vues à son sujet. Comme de juste, où allait Tuon, on trouvait au minimum une centaine de gardes de la mort. Plus Galgan et Courtani, qui l'avaient mauvaise de s'être fait sermonner pour avoir tardé à aider le prince des corbeaux. Fourik Karédé était là aussi, à la tête de ses hommes. Le côtoyer était presque aussi agréable que de trouver la main d'un voleur dans sa bourse. C'était un bon soldat, et Matt le respectait. Cela dit, il l'aurait bien incité à se battre en duel contre Lan. À coup sûr, ces deux-là auraient ferraillé pendant des années.
« Je veux voir de plus près !»
dit Matt, quand ils furent à portée de vue du champ de bataille.
« Là-bas !»
Talonnant Pépin, il chevaucha vers une butte assez proche de l'endroit où les belligérants s'étripaient. Tuon le suivit en silence. Quand ils furent tous en position, Matt remarqua que Seleucia le foudroyait du regard.
« Qu'est-ce qui cloche ? »
demanda-t-il.
« Je croyais que tu te réjouirais de mon retour. Avoir quelqu'un en plus à bombarder de regards noirs, c'est appréciable. »«
L'impératrice te suit où que tu ailles, »
grogna la Séane Chanienne.
« C'est exact. Comme je la suis où qu'elle aille, j'imagine. J'espère que ça ne nous conduira pas à tourner en rond. »
Matt étudia la mêlée en bas. Le fleuve n'était pas très large, peut-être une dizaine de pas, mais le courant était rapide, et l'eau se révélait profonde des deux côtés du gué. Bref, l'obstacle était de taille, et pas seulement pour les trollocs. Par bonheur, le gué était très praticable. On y avait de l'eau à peine jusqu'aux genoux, et il se révélait assez étendu pour que de très larges colonnes de cavaliers le passent de front. Dans le lointain, au milieu des chariens, un type paradait sur un cheval blanc étincelant. Avec sa longue vue, Matt eut du mal à le voir en détail. Parce que son armure étincelante, il n'en avait jamais observé de semblable, l'éblouissait.
« Notre rejeté, je suppose ? »
demanda-t-il.
« Il semble défier de la voix le dragon réincarné, »
dit Galgan. Amplifié par le pouvoir, les cris de Demandred se répercutaient aux quatre coins du champ de bataille. Effectivement, il exigeait que le dragon vienne l'affronter en combat singulier.
« Demandred, c'est ça ?»
fit Matt.
« Il ne serait pas devenu ma boule ?»
Au moins, à présent, le jeune flambeur savait quel coin du champ de bataille il devrait éviter. Car enfin, il n'avait jamais signé pour se frotter à des rejetés. En fait, si sa mémoire ne le trompait pas, il n'avait signé pour rien du tout. Depuis le début, il n'avait pas fait un pas sans y être poussé. Par la force, le plus souvent. Et toujours à cause d'une femme ou d'une autre à qui il manquait une case. Et Gwen se chargerait de Demandred. Ou les Achamans, peut-être. Selon Rand, cela, au moins, ne devenait plus cinglé. Mais ça pouvait être des paroles en l'air. Tout homme prêt à manier le pouvoir était un fou. Ajouter de la démence dans son esprit revenait à remplir d'infusion une tasse qui débordait déjà. Au moins, les damans de Tuon occupaient les chariennes. Sur les deux rives, les éclairs éventraient le sol. Dans ces conditions, impossible d'avoir une image nette de ce qui se passait. Beaucoup trop de confusion. Matt orienta de nouveau sa longue vue vers le sud, le long du fleuve, et il plissa le front. Un camp se dressait à quelques centaines de pas du gué, mais ce ne fut pas la disposition anarchique des tentes qui attira l'attention du jeune flambeur. Dans le secteur est, un grand nombre de cavaliers attendaient à côté de leurs montures. Une silhouette faisait les 100 pas devant eux, et on voyait qu'elle était Furax. Même avec un seul œil, Matt n'eut aucun mal à reconnaître Tylee. Baissant sa longue vue, le mari de Tuon se massa le menton, ajusta son chapeau et posa sa lance sur son épaule.
« Laissez-moi 5 minutes de tranquillité, » dit-il avant de talonner Pépin.
Avec un peu de chance, Tuon ne le suivrait pas. Elle s'en abstint, effectivement. Alors qu'il atteignait le pied de la colline, Matt l'imagina en train de le regarder avec ses yeux si étranges. Tout ce qu'il faisait l'intéressait, semblait-il. Le long du fleuve, Matt galopa en direction de Tylee. Quand les explosions commencèrent à lui percer les tympans, il comprit qu'il n'était plus très loin du cœur de la bataille. Faisant obliquer Pépin à gauche, il fonça vers la Séanchanienne en colère.
« Tylee ! Espèce de folle aveugle à la lumière ! Que fiches-tu dans ce coin au lieu de te rendre utile ?»«
Très honoré, » dit Tylee en tombant à genoux. « On nous a ordonné de rester ici jusqu'à nouvel ordre. »
« Qui vous a donné cette consigne ? Allons, relève-toi !»«
Le général Braine, très honoré, » répondit Tylee en se redressant.
Même si son visage restait de marbre, Matt entendit de l'agacement dans le ton de la Séanchanienne.
« Selon lui, nous sommes seulement une unité de réserve, qui ne doit pas bouger de sa propre initiative. À l'en croire, beaucoup de vies en dépendent. Mais regarde, ça se voit à l'œil nu. La bataille tourne mal. »
Jusque-là trop concentré sur Tylee pour regarder plus loin, Matt n'eut pas besoin d'un deuxième œil pour constater que ça n'allait pas fort. Si les Damans résistaient assez bien dans leur duel de pouvoir, les soldats étaient à l'évidence en mauvaise posture. Les défenses sur le flanc est de Braine étaient débordées, les fantassins littéralement submergés par les chariens. Où était donc la cavalerie ? En principe, elle devait protéger les flancs. Comme Matt l'avait prévu, des archers chariens avaient avancé vers le front et criblaient de flèches les cavaliers qui défendaient l'autre flanc de Braine. On eût dit qu'un furoncle était en train de se faire écraser. Et le pu qui en sortirait, c'était les troupes du général.
« C'est totalement dépourvu de sens !»
fit Matt.
« On dirait que Braine fait tout pour que ça tourne au désastre. Où est-il en ce moment, Tylee ?»
« Je n'en sais rien, très honoré. Je lui ai envoyé des messagers et jusque-là aucun n'est revenu. Mais on m'a rapporté que notre camp a subi un revers majeur au sud d'ici. Au pied des collines le long de la frontière, deux gros escadrons de cavalerie ont été massacrés par les chariens. » D'après ce qu'on dit, ils avaient été chargés de soutenir les Aes Sedai postés sur les sommets.
Par le maudit sang et les fichus cendres!
Matt prit le temps de digérer cette information.
Bon, Tylee, on ne peut plus attendre ici à se tourner les pouces. Voici ce que nous allons faire. Le général de bannière Makoti et son 3e régiment passeront par le centre. Ils devront contourner nos troupes puis repousser les Trollocs. Toi, avec ton 2e régiment, tu iras renforcer le flanc droit. En chemin, enrôle tous les archers et autres amateurs de chèvres qui croiseront ton chemin. Avec le 1er régiment, j'irai sur le flanc est, histoire de requinquer nos défenses. Exécution, Tylee!
Oui, très honoré. Mais tu ne vas pas t'engager directement dans la bataille.
Bien sûr que si! Allez, file, Tylee!
Avant, puis-je me permettre une humble suggestion, très honoré? tu n'as aucune protection. Laisse-moi te fournir un équipement adéquat. »
Matt réfléchit et convint rapidement que l'idée était judicieuse. Avec toutes ses flèches et ses épées, on prend facilement un mauvais coup. Tylee fit signe à un de ses capitaines à peu près de la même taille que Matt. Puis elle lui demanda de retirer son armure, bizarrement multicolore, le rouge, l'or et l'argent s'y mêlant par plaques, le tout délimité par un liseré d'argent. Quand Matt lui tendit sa veste en échange, en précisant qu'il entendait la récupérer le soir et dans le même état qu'actuellement, le militaire en resta comme deux ronds de flanc. Le jeune flambeur s'équipa, l'armure lui protégeant le torse, l'arrière des bras et le devant des cuisses. Bizarrement, il la trouva plutôt confortable. Quand le capitaine lui tendit son casque, le jeune flambeur fit mine de n'avoir rien vu. Puis il ajusta son cher chapeau et se tourna vers Tylee.
« Très honoré, encore une chose, les Marat d'Aman.
Je traiterai en personne avec ces femmes, »
coupa Matt. Tylee le regarda comme s'il était fou allié. Eh bien, pour être franc, elle devait avoir raison.
« Très honoré, l'impératrice !»
Quand elle vit l'expression sinistre de Matt, Tylee changea d'approche.
« Accepte au moins que quelques Daman te protègent. »«
Je me débrouillerai tout seul, merci beaucoup. Ces fichues bonnes femmes me traîneraient dans les jambes. »
Matt sourit.
« Tu es prête, Tylee ? J'aimerais que nous en ayons fini avant l'heure de ma chope de bière vespérale. »
En réponse, Tylee se retourna et cria.
« Ancel !»
Bon sang, cette femme avait du coffre. En un éclair, des milliers de postérieurs se posèrent sur autant de selles, le bruit se répercutant de rangée en rangée, et chaque cavalier redressa le dos, les yeux rivés droit devant lui. Au Séan Chanien, Matt pouvait reconnaître une chose. Ils entraînaient leurs soldats comme des chefs. Tylee lança plusieurs ordres, puis elle se tourna vers Matt et cria.
« Très honoré, à ton commandement !»«
Los Cabadrin !»
s'égosilla Matt. Pas un seul homme, ou presque, ne connaissait le sens de ces mots. Pourtant, tous les comprirent d'instinct. Cavalier en avant. Alors que Matt s'engageait dans le guet, son achan d'arrêt brandi, il entendit le sol trembler derrière lui quand le premier régiment s'ébranla. Les corps séanchaniens sonnèrent la charge, une cacophonie volontaire, chaque instrument ayant son propre son, destiné à être entendu de très loin. Sur l'autre rive, des soldats de la Tour Blanche jetèrent un coup d'œil par-dessus leur épaule. En un éclair, ils s'écartèrent pour céder le passage aux cavaliers qui arriveraient dans quelques secondes. Après avoir très légèrement obliqué vers la gauche, les Séanchaniens arrivèrent au contact avec les Chariens, qui jusque-là étripaient tranquillement les fantassins des Gwen. Lancés à toute vitesse, les premiers rangs de Séanchaniens percutèrent l'ennemi, leurs destriers parfaitement dressés se cabrant à l'instant parfait, pour ensuite se laisser retomber sur leurs adversaires. Tombant avec leurs montures, des dizaines de chariens moururent sous les sabots des cavaliers qui foncèrent vers l'avant sans un regard en arrière. Les chariens semblaient savoir se battre, mais il s'agissait d'unités de cavalerie lourde, considérablement ralenties par le poids des armures et munies de longues lances afin de tuer autant de fantassins que possible. Face à une charge de cavalerie légère, plus mobile et plus vive, ces hommes n'étaient pas à leur avantage. Le premier régiment était une unité d'élite qui utilisait une large panoplie d'armes et savait se battre en équipe. Propulsés par les cavaliers de tête, les lances fondaient sur la visière du haume des chariens, la plupart d'entre elles traversant la fente pour déchiqueter les chairs et les yeux. Derrière, d'autres experts brandissaient des épées à deux mains à la lame incurvée. Cela visait l'interstice vulnérable à la jonction entre le bas du haume et le haut du plastron. Changeant de tactique, ils frappaient parfois le ventre des chevaux caparaçonnés, un bon moyen d'expédier à terre leurs cavaliers. Avec des perches à crochets, certains Séanchaniens désarçonnaient des chariens, afin que leurs équipiers viennent les marteler de coups de masse d'armes, écrasant assez leur armure pour qu'ils ne puissent plus bouger. Systématiquement, dès qu'un charien était à terre, un fantassin armé d'une dague très fine venait l'enfoncer dans la fente de son casque, lui crevant les yeux. Dans ces conditions, la longue lance des chariens devenait un handicap, et beaucoup moururent sans même avoir eu le temps de la lâcher pour dégainer leur épée. Matt ordonna à un de ses escadrons de cavalerie de remonter le cours d'eau jusqu'à la limite gauche du champ de bataille, puis d'encercler les cavaliers de Shara. Débarrassés de la pression de ses lanciers, les fantassins de la Tour Blanche, au centre gauche, purent enfin utiliser de nouveau leurs piques et leurs hallebardes. Avec l'aide des deux autres régiments du Seanshan, les défenses du guet reprirent peu à peu du poil de la bête. L'affaire n'avait rien d'esthétique. Sur un sol boueux, même à plusieurs centaines de pas de l'eau, la mêlée était confuse et crasseuse. Mais les forces de la lumière tenaient toujours leur terrain. Au cœur de cet enfer, Matt jouait sans répit de son Ashan d'Arey. Pourtant, il découvrit vite que cette arme n'était pas très efficace, car les frappes, la plupart du temps, rebondissaient sur le plastron de ses adversaires. Du coup, il devait sans cesse se tortiller sur sa selle pour éviter la riposte d'une lame de Shara. Alors qu'il avançait lentement mais sûrement vers les dernières rangées de cavaliers ennemis, le jeune flambeur s'avisa que trois de ses compagnons n'étaient plus sur leur selle. Bizarrement, il s'y trouvait encore une minute plus tôt. Deux autres soldats du jeune flambeur redressèrent le dos, regardèrent à droite et à gauche, puis s'embrasèrent, crièrent de douleur, et se jetèrent sur le sol pour essayer d'éteindre les flammes. En vain, puisqu'ils finirent par ne plus bouger. D'un coup d'œil sur sa droite, Matt vit un Seanshanien propulsé dans les airs par une force invisible. Quand il se retourna, il croisa le regard d'une femme magnifique. Vêtue d'une robe de soie noire décorée de rubans blancs, une tenue qui mettait en valeur ses formes, c'était une beauté noire, mais sans une once de la délicatesse qui caractérisait Tuan. Des pommettes hautes, une grande bouche sensuelle, des lèvres charnues mais boudeuses. Enfin, jusqu'à ce qu'elle dessine un sourire qui n'eut rien pour réconforter ni rassurer le jeune flambeur. Contre sa peau, le médaillon devint glacial et il retint son souffle. Jusque-là, la chance avait été de son côté, mais il n'avait pas l'intention de pousser trop loin le bouchon. Après tout, quel imbécile allait jusqu'à tuer le meilleur cheval de course de son écurie? Dans les jours à venir, il aurait besoin d'être vénard, alors autant capitaliser. Mettant pied à terre, Matt avança vers la femme, qui tenta un autre tissage, constata son échec et écarquilla les yeux. Avec sa lance, le jeune flambeur faucha les jambes de la belle inconnue. Puis il lui flanqua sur la tempe un bon coup du plat de la lame fer de son arme. La charienne tomba tête la première dans la boue. Avant d'avoir pu la tirer de là, Matt se trouva soudain face à plusieurs dizaines de chariens. 10 de ses soldats vinrent le soutenir et ils avancèrent ensemble. Ces chariens n'avaient que des épées. Matt se déchaîna, sa lance zébrant furieusement l'air. Avec ses Seanshaniens, il força les fâcheux d'en face à reculer. Dans la sauvagerie de ce combat, la Ashan d'Arey faisant jaillir des gerbes de sang, Matt, du coin de son œil unique, vit que deux de ses hommes avaient relevé la charienne avant qu'elle ait eu le temps de s'étouffer. Enragé, il continua à avancer. Autour de lui, des hommes appelaient des renforts. À chaque pas prudent, un peu de terrain de gagné. Oui, mais la boue se teintait de rouge. Alors que les corps de leurs camarades sombraient dans la gadoue, des chariens venaient sans cesse les remplacer. Les soldats, en général, n'étaient pas des guélurons, mais là, chaque fichu charien sembla avoir l'intention de trucider le jeune flambeur. Jusqu'au moment où il n'y ait plus âme qui vive en face de lui. À ses côtés, il restait 4 Seanshaniens. Malgré la confusion ambiante, Matt s'avisa qu'il voyait les choses avec une plus grande lucidité qu'avant. Le court répit dont il bénéficiait lui donna l'occasion d'agir de nouveau comme un chef.
« Cette femme !»
ordonna-t-il.
« Liez-lui les mains dans le dos, puis baillonnez-la, et nouez-lui un bandeau sur les yeux. »
D'un revers de la main, Matt essuya la sueur qui ruisselait sur son front. Par la lumière, il y en avait assez pour créer un second cours d'eau.
« Nous allons reculer vers le guet avec notre prisonnière. Là, je verrai si je peux envoyer au feu quelques-unes de ces damanes de malheur. Les chariens ont eu tort de laisser une de leurs femmes seule sur le champ de bataille. Mais filons d'ici avant qu'il en arrive d'autres. »
Matt secoua une de ses mains. Il s'était cassé un ongle, craquelant la fine couche de laque. Se tournant vers un officier Seanshanien qui venait de combattre à ses côtés, il vit que l'homme le regardait avec des yeux ronds, comme s'il avait le dragon réincarné en face de lui. N'aimant pas trop ça, Matt baissa son œil unique sur le sol rouge de sang et le releva vite, stupéfié par le nombre des cadavres qui l'entouraient. Combien de vies avait-il prises aujourd'hui ?
« Très honoré, » dit l'officier. « Aucun homme dans l'Empire n'oserait mettre en doute les décisions de l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement. Mais si quelqu'un avait un jour contesté son choix de mari, eh bien, ce serait terminé. Tu es un héros, prince des corbeaux. »
Le type leva son épée et des vivats retentirent derrière lui.
Dénichez-vous des lances ou des piques,
dit Matt.
Dans cette bataille, les épées ne servent à rien pour des fantassins.
Matt égalisa son ongle avec ses dents et cracha les rognures.
Vous vous êtes bien battus, les gars. Quelqu'un a vu mon cheval ?
Pépin n'était pas loin. Le tenant par la bride, Matt se dirigea vers le guet. Ce faisant, il réussit à rester loin des dernières escarmouches. Ce capitaine du Sehan Shan lui rappelait trop Talmanès, et il avait assez de loyaux fidèles pour plusieurs vies.
« Je me demande s'il joue au dé, »
pensa-t-il distraitement en entrant dans l'eau. Ses bottes étaient de qualité, mais l'étanchéité absolue n'existait pas. Bientôt, ses chaussettes furent trempées alors qu'il passait le guet avec Pépin. Sur sa droite, très loin, il y avait du mouvement. Plissant son œil unique, il vit que des Aes Sedai canalisaient le pouvoir en direction du champ de bataille. Mais pas question de se mêler de leurs affaires. Il avait d'autres soucis en tête. Devant lui, Matt avisa un type portant un pantalon large et une veste à l'aspect familier. Après une brève conversation, il échangea sa tenue contre celle de l'homme. Ravi d'avoir de nouveau sur les épaules une bonne vieille veste de deux rivières, le jeune flambeur se hissa en selle, de l'eau dégoulinant de ses jambes, et partit en direction de l'endroit où il avait laissé Tuon. Sur son ordre, ses hommes avaient capturé la charienne, la saucissonnant, la bâillonnant et l'aveuglant. Par la lumière, qu'allait-il en faire ? Très probablement, elle finirait d'amane, avec un collier autour du cou. Laissant ses soldats derrière lui, Matt franchit la haie de garde de la mort et les salua à peine. À présent, l'image du champ de bataille était gravée dans sa tête. Plus rien à voir avec des dessins à la noix. En fermant son œil, il voyait le site, entendait crier ses hommes et sentait la laine putride des Trollocs. Désormais, tout ça était réel.
L'impératrice,
dit Seleucia dès qu'il fut au sommet de la colline,
veut savoir très précisément pourquoi tu as cru bon de t'engager dans la bataille comme un imbécile irresponsable. Ta vie ne t'appartient plus, prince des corbeaux. Tu ne peux plus la risquer sur un coup de dé comme avant.
Je devais savoir, répondit Matt. Sentir battre le cœur de la bataille.
Le cœur ?
Répéta Seleucia. Comme une fichue promise de la lance, Tuon parlait par signe à sa voix. Qu'elle ne s'adresse pas directement à son époux n'était pas encourageant.
Tuon, toute bataille a un cœur,
dit Matt.
Ninevée, jadis, prenait le pouls des villageois, et ça lui suffisait pour savoir s'ils allaient bien ou non. C'est le même principe. Foncer dans la mêlée, sentir ses vibrations, connaître intimement les choses, quoi.
Un domestique au crâne rasé approcha de Tuon et Seleucia. Venant du guet, il leur parla tout bas. Matt étudia le champ de bataille. Repensant aux cartes, il leur superposa mentalement l'image du site réel. Brain, laissant Tylly de côté, exposant son flanc gauche et envoyant sa cavalerie dans un piège. La bataille se développant devant ses yeux, Matt vit les différentes tactiques mises en œuvre, avec 10 coups d'avance sur ce qui était en cours. Des visions un peu comparables à celles de Mine, sauf que là, il n'y avait que des corps déchiquetés, plus le vacarme des armes et celui des tambours de guerre.
« Gareth Brain est un suppôt de ténèbres, »
marmonna Matt.
« Pardon ?»
s'écria Mine.
« Tuon, cette bataille est à un souffle d'être perdue. Je dois prendre le commandement de notre armée, sur le champ. Plus de disputes avec Galgan. Mine, je veux que tu ailles rejoindre Egwene pour la prévenir que notre général fait de son mieux pour perdre. Mon épouse, il faut que Mine y aille en personne. Elle est la seule qu'Egwene écoutera. »
Tout le monde regarda Matt avec des yeux ronds, à part Tuon, qui le gratifia de la fameuse expression qui lui retournait l'âme et le cœur. Celle qui lui donnait le sentiment d'être une souris qui vient de se faire surprendre à lâcher des crottes dans une pièce récemment briquée à fond. De quoi le pousser à transpirer encore plus que pendant la bataille.
« Secoue-toi »
pensa-t-il.
« Ce n'est pas le moment. »
Tout était clair à présent, comme sur le plateau d'un jeu de pierre. Les mouvements de Brain semblaient complexes et subtils, mais le résultat, si on le laissait faire, serait un désastre sans précédent. Matt pouvait empêcher ce drame, à condition d'agir ici et maintenant.
« C'est fait !»
annonça Tuon.
« Tu viens d'être nommé commandant en chef. »
Sa déclaration fut accueillie par une stupéfaction comparable à celle qui avait suivi l'annonce au sujet de Brian. Le général Galgan était vert, à croire qu'il aurait préféré manger ses bottes, plutôt que de servir sous les ordres du jeune flambeur. Des domestiques et des soldats emmenèrent Mine, qui poussa un petit cri indigné. John fit avancer sa monture.
« On m'a dit que dans le feu de l'action tout à l'heure, tu t'es permis de revendiquer une marate d'Aman pour toi seul et de promouvoir un de tes officiers jusqu'à le nommer membre du sang inférieur. »«
J'ai fait ça ?» s'exclama Matt, soufflé. « Je ne m'en souviens pas. »«
Tu as même craché ton ongle à ses pieds. »
« Oh, ça ! Oui, je l'ai peut-être fait, accidentellement. Quant à la charienne, John, je ne voulais pas... Enfin, tu peux l'avoir. C'est juste que... »«
Ne t'excuse pas, »
dit l'impératrice.
« Tu as eu tout à fait raison de t'approprier cette Daman. Tu ne pourras pas la dresser, bien sûr, mais beaucoup de Souldames seront prêtes à sauter sur l'occasion. » Il est très rare qu'un homme capture une Daman sur un champ de bataille. Rarissime, en fait. Et même si je connais ton petit secret, les autres l'ignorent. Ça augmentera ton prestige.
Matt haussa les épaules. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Si cette Daman lui appartenait, il pourrait peut-être lui rendre sa liberté, ou quelque chose dans ce genre.
L'officier que tu as promu, je le ferai transférer pour qu'il devienne ton aide de camp. Il a d'excellents états de service, peut-être trop bons. S'il est affecté au guet, c'est parce qu'on le soupçonnait d'appartenir à une faction qui pourrait se retourner contre nous. À présent, il chante tes louanges. J'ignore ce que tu as fait pour qu'il change d'opinion. À l'évidence, tu as un don pour ça.
Espérons que je sois aussi doué pour transformer une défaite en victoire. John, ça ne sent pas bon.
Personne ne pense comme toi,
souligna l'impératrice. Sans agressivité, sur le ton du constat.
Et pourtant, j'ai raison. J'aimerais mieux me tromper, mais c'est comme ça.
« Si tu fais erreur, ça minera mon influence. »«
Tout ira bien, ne t'en fais pas, »
dit Matt en prenant la direction du camp des Séanchaniens, à quelques milliers de pas au nord.
« Je peux me planter de temps en temps, c'est vrai. Mais au bout du compte, tu verras que miser sur moi est toujours gagnant. »